Plutarque écrivait « Nous ne nous asseyons pas à table pour manger, mais pour manger ensemble ». Et du coup, la conséquence, c'est que tout est fait pour dissimuler à table l'acte central qui est censé s'y accomplir. Concrètement, le fait de manger, qui devient une sorte d'ingestion honteuse, animale, qui s'accomplit à table. Et donc, il faut que ce repas qui est présenté, qui est mis en scène, qui est soumis au regard de l'autre, il faut que ce repas s'éloigne le plus possible de cet acte animal initial.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Est-il déjà arrivé d'entrer dans un restaurant pour vous attabler et manger seul, vous asseoir au milieu d'une salle remplie d'estomacs venus en groupe ou au minimum par deux, laisser le serveur retirer les couverts face à vous, vous livrant à la soudaine immensité d'une moitié de table vide, espace vacant habituellement occupé par un co-mangeur, une présence familière, une compagnie, un copain, celui avec qui on partage le pain? Longtemps, je n'ai pas vu l'intérêt de manger seul au resto. Pourquoi utiliser le décor de la convivialité si c'était pour le faire en solitaire? Je préférais alors attraper un sandwich, manger sur le pouce, trouver une option plus rapide et moins chère, bref, me nourrir de façon efficace. Puis, je suis devenue journaliste et avec le métier sont arrivés les reportages loin de la maison, ailleurs en France ou même à l'étranger. Et ça a commencé comme ça. L'envie de prendre un vrai moment de pause au milieu d'une grosse journée de travail m'a décoincée des restos en solo. Avec en arrière-fond cette idée qu'après tout, avant d'être bien en compagnie des autres, il est important d'être bien avec soi-même et de ne pas attendre les autres pour se faire plaisir, manger un bon plat et prendre du temps pour soi. Quand on est seul au resto, en particulier le midi, on s'aperçoit en réalité assez rapidement qu'on n'est pas vraiment les seuls à être seuls. Seuls ensemble, finalement. Tous prêts à commander des plats du jour, ces plats pensés pour nourrir celles et ceux qui vont faire grossir le PIB de la France. Entre midi et 14h dans les restos de nos villes, il y a toujours les VRP, les gens qui mangent tôt avant un rendez-vous ou tard après un autre, ceux qui ont un téléphone dans leurs mains ou un carnet sous leurs yeux, les travailleurs du secteur tertiaire, reconnaissables à leurs vêtements gris-souris et leurs sourcils froncés devant un agenda, stylo au-dessus de l'oreille droite. Ces mangeurs solitaires semblent tout à fait dans leur élément, cette table de restaurant qui devient alors l'extension de leur bureau individuel. C'est qu'ils et elles ont une bonne raison d'être là, plein d'assurance. Ils doivent manger et ensuite retourner bosser. Leur présence solitaire obéit donc à une logique et répond à un besoin, celui de la gestion du temps dans une journée travaillée, avec pour corollaire l'appropriation des espaces de la ville à des fins productivistes. Plus marginaux, hors normes et poétiques sont en fait les mangeurs et les mangeuses qui ont l'audace d'avoir tout le temps devant eux et d'être attablés au resto pour leur simple plaisir. Être plongé dans un roman, pianoté sur un téléphone pour se donner une vague contenance, ou mieux encore, ne rien faire et observer les autres, comme dans un dîner-spectacle. Assumer, en somme, cette posture de mangeur-mangeuse solitaire et regarder le reste comme une vaste scène au théâtre. Mais cette solitude choisie semble être plus simple à mettre en place le midi, lorsque la société entière semble être affairée au milieu de journées qui suivent leur déroulé propre. Car le soir, la faune des collègues de travail semble remplacée par les groupes d'amis, les amants, les gens qui ont une bonne raison de se retrouver et d'être dehors parce qu'ils ont choisi d'être ensemble plutôt que chez eux, une fois le travail terminé. Le soir, la solitude se voit davantage, surtout avec le relâchement et la décompression de chacun, les verres d'alcool qui font hausser la voix et multiplier les rires, cet état festif qui rend les repas plus bruyants et accentue donc le silence d'une table solitaire. Et pourtant, il semble y avoir des lieux, des cultures, des endroits dans le monde où manger seul nous semble moins étrange. Manger un feu avant d'aller au boulot au Vietnam, être attablé en U dans un restaurant de ramen au Japon où tout le monde vient avaler son bol de nouilles fissa fissa, ce sont les images dessinées que l'on peut retrouver dans Le Gourmet solitaire, un manga enchanteur dans lequel on suit les tribulations gourmandes d'un homme d'affaires qui profite de ses pauses déjeuner pour se régaler dans divers endroits au Japon. Pour comprendre ce qui se joue dans le fait de manger seul au resto et pourquoi cette expérience peut nous mettre mal à l'aise, j'ai discuté avec Nathalie Perbonne, chercheuse qui étudie la question de la sociabilité des repas. Pour commencer, je lui ai demandé de revenir sur les racines de ce qui semble bien être un tabou culturel.
Commençons par le début. Je dirais que poser la question du manger solitaire, du manger seul, Et donc, on regarde en réalité celle du mangeur non solitaire, du mangeur accompagné, inséré dans un groupe. D'une certaine façon, c'est réfléchir à partir d'un paradoxe. Pourquoi un paradoxe ? Parce que manger, d'un point de vue physiologique, c'est l'activité, je dirais, la moins partageable qui soit. La bouchée que j'ingère ne peut être ingérée que par moi-même. Personne ne peut boire ou manger à ma place. Peut-être que l'être qui s'alimente est renvoyé à son propre corps, à ses propres limites. Et pourtant, voilà, pourtant, dans beaucoup de cultures, effectivement, manger n'est appréhendé qu'à travers un prisme collectif. Et la plupart des cultures enjoignent de manger ensemble. Et effectivement, manger seul, et en particulier à l'extérieur de chez soi, est souvent connoté négativement, réservé à certains cas précis. Et c'est vrai que la table, historiquement, culturellement, elle est envisagée, peut-être même on pourrait dire imposée, finalement, comme un espace de partage, comme un lieu de sociabilité, c'est-à-dire un lieu où l'on va entrer en contact avec les autres. Sociabilité est en réalité mise en scène de cette sociabilité. Donc quand on s'installe à table, on s'installe, oui, bien sûr, pour manger, mais en réalité, l'enjeu est bien plus large, en fait. Et c'est bien ça qui crée, je dirais, l'inconfort de la solitude à table. Ce n'est pas un lieu envisagé pour, effectivement, une installation solitaire.
Vous employez une expression que je trouve très intéressante, de mise en scène, le fait de mettre en scène. Quand on met en scène, c'est qu'on part du principe qu'il y a un regard, que des gens nous voient faire.
Évidemment, le lieu même où a lieu le repas est déterminant. Il y a deux espaces envisageables, qui va être l'espace domestique chez soi ou l'espace extérieur. Mais en réalité, il s'agit toujours effectivement, et surtout pour l'espace extérieur, d'un lieu où l'on n'est pas seul. Même au restaurant, on n'est pas seul. Le repas y est mis en scène. Il y a une mise au commun, il y a un partage. Et tout dans l'histoire du repas, en réalité, va dans ce sens. Depuis l'Antiquité, on dit, on écrit que l'homme civilisé, c'est celui qui se distingue des bêtes, notamment à table, surtout à table. Plutarque écrivait « Nous ne nous asseyons pas à table pour manger, mais pour manger ensemble ». Et du coup, la conséquence, c'est que tout est fait pour dissimuler à table l'acte central qui est censé s'y accomplir, concrètement le fait de manger, qui devient une sorte d'ingestion honteuse, animale, qui s'accomplit à table. Et donc, il faut que ce repas qui est présenté, qui est mis en scène, qui est soumis au regard de l'autre, il faut que ce repas s'éloigne le plus possible de cet acte animal initial. On n'est pas là pour se repaître. Et donc, au fil des siècles, sont constituées, s'imposent des règles diététiques, des manières de table. On se met à, par exemple, manger avec des couverts. La fourchette, elle est là, pourquoi ? Pour instaurer distance entre le mangeur et son aliment, l'instaure de la civilité, en fait, l'éloigne l'acte animal. Tout ça parce qu'effectivement, on est sur scène lorsqu'on est à table. Et on est sur scène avec d'autres. Tous les mots de la table renvoient, en fait, à ces interactions, à ce vivre ensemble, le convive. Convivere en latin, c'est vivre ensemble, commensal. Cum, avec, tous ces mots-là disent effectivement qu'on est là, installé, assis, avec d'autres, et qu'on offre ce spectacle d'un partage du pain, etc., sans que finalement le repas en solitaire il soit véritablement envisagé.
Finalement, ces règles de bienséance, la conversation qu'on essaye d'avoir, la convivialité, mettre la table de telle ou telle manière, sont des choses que l'humanité a mises en place pour s'éloigner un peu de son animalité, ou pour en tout cas marquer une différence avec l'animal.
C'est ça. Le repas, il se doit d'être un acte de civilité. Et c'est bien pour ça que l'activité, alors je ne sais pas, même pas si je dois la qualifier de secondaire, l'activité secondaire majeure pendant le repas, c'est la conversation, en fait. Lorsqu'on s'assoit autour d'une table, alors en arrière-fond, on a toujours le banquet de Platon, en fait, qui est toujours un petit peu léger comme ça, où il est bien peu question de nourriture, évidemment. Le banquet dans la culture grecque ancienne est très important. Les Grecs disaient que tout être humain n'est pas capable de banqueter. Autrement dit, de s'asseoir avec d'autres pour partager mots et mets, et ils jugeaient les sociétés non grecques en fonction de leurs usages alimentaires. Donc, lorsqu'on s'assoit à table, on s'assoit pour, certes, partager des mets et des boissons, mais pour partager aussi, surtout, je ne sais pas dans quel ordre effectivement placer hiérarchiquement ces activités, pour partager des mots, une conversation. Et on a effectivement une insistance depuis toujours sur cet aspect-là. Il y a Bria Savarin, par exemple, qui dans sa Physiologie du goût, au début 19e, écrit, bon, c'est une phrase très très connue, qui finalement s'est imposée à pas mal de réflexions, il écrit « Les animaux se repaissent, l'homme mange, l'homme d'esprit seul sait manger ». Ah, on est évidemment là bien loin d'un, je dirais, de la satisfaction d'un besoin purement physiologique. L'homme doit pouvoir exercer son esprit à table. Alors, soit par la conversation, et on a effectivement des traités entiers sur le type de conversation qu'il faut effectivement pouvoir mener à table. Certaines sont favorables, d'autres moins. Il y a aussi les supplétifs éventuels. Pour celui qui réellement se trouverait coupé de ses semblables à cette conversation, évidemment on pense à la lecture, ou aujourd'hui aux écrans, l'ordinateur, le portable, tout cela étant à la fois encouragé et fortement condamné, notamment par les médecins, ça c'est encore une autre histoire. Est-ce qu'on peut lire en mangeant? Est-ce qu'on peut effectivement digérer si l'on a lu en mangeant? Puis par des médecins, ils sont contre. Mais en fait, ce qui est en jeu, c'est que celui ou celle qui mange seul, qui n'est pas en relation avec les autres, d'une certaine façon, déroge à une sorte d'obligation sociale. On est presque dans quelque chose qui se rapproche d'une forme de déviance culturelle, en réalité. Traditionnellement, on pourra parler de la façon dont aujourd'hui les choses peut-être changent ou sont censées changer, je ne sais pas, mais il y a ça, toujours, en arrière-fond.
Par rapport donc à ce tabou culturel, est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose dans tous les pays, ou est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des endroits dans le monde où manger seul au restaurant est peut-être moins stigmatisant, ou en tout cas moins l'objet d'une gêne chez le mangeur ou la mangeuse solitaire? Je pense par exemple aux pays où on trouve une culture du comptoir, par exemple le Japon, où on peut s'attabler seul mais tous ensemble, en U, le temps d'avaler une soupe de ramen.
Manger seul au restaurant, le restaurant, déjà, c'est une invention relativement moderne, hein. On est fin 18e, enfin, cela dit, le repas public existait déjà, effectivement, avant. À côté des repas qu'on pouvait prendre dans l'espace domestique privé, il y avait le repas public, mais qui restait vraiment exceptionnel, on va dire. On avait des mises en scène, le repas du roi, etc. Bon, alors après, aujourd'hui, puis en deux siècles, on va dire, effectivement, le repas au restaurant qui peut se prendre, il peut être envisagé différemment selon les cultures, les époques, et selon d'autres prismes, et notamment le prisme du genre. Hein, parce que, justement, je pense que pour le Japon, les choses se posent, ça se pose évidemment en Occident. Pour ce qui est de manger à l'extérieur de l'espace domestique, la situation n'est pas la même pour un homme et pour une femme. Alors pour une femme, il y a pas mal de choses qui entrent en jeu. Il y a deux choses en réalité. Il y a le fait de manger seul devant des inconnus. Il y a également, dans un certain nombre de sociétés, le fait de ne pas avoir préparé ses propres plats. Jusqu'à une époque pas si lointaine, pour une femme, le fait de ne pas préparer ses aliments, de les acheter tout faits, était considéré comme une preuve de ses mauvaises mœurs. Donc, rien n'est plus suspect qu'une femme qui achète à l'extérieur de la maison des aliments prêts à être consommés, puisque c'est une femme qui ne fait pas la cuisine. Voilà, on est déjà là-dedans. Et après, ensuite, le fait de s'installer, de se soumettre au regard des autres lorsqu'on est une femme, et donc socialement plus vulnérable qu'un homme, pose d'autres problèmes également. Pour la femme, par exemple, ça va passer par des injonctions qui vont prendre souvent même des connotations, des aspects médicaux. On va dire, voilà, le manger seul, c'est la porte ouverte aux désordres alimentaires. Alors, la boulimie, l'alcoolisme. Bon, ah oui, parce que évidemment, le tabou suprême, c'est le fait de boire seul. Et puis alors, boire seul pour une femme, bon là, on est dans des gradations. Là, on est vraiment, les normes sociales excluent effectivement cette consommation en solitaire. Et d'ailleurs, ça joue en réalité dans le fait que le repas en solitaire au restaurant soit parfois difficile à concevoir, puisque le repas au restaurant s'accompagne souvent de consommation d'alcool. Or, la consommation d'alcool en solitaire pose problème dans nos sociétés. Le repas à l'extérieur, le repas au restaurant, par exemple, c'est tout de même une mise en scène de soi, puis qui s'inscrit dans la durée. C'est long, un repas, même si on avale vite fait un plat. Enfin, c'est une mise en scène de soi et de ce que l'on est socialement. On se donne à voir aux autres, d'où l'importance de ce que l'on mange, de la façon dont on mange, de ce que l'on peut faire à côté, de la contenance qu'on va se donner avec un livre, un téléphone portable, peu importe. Celui qui mange seul met en scène non pas ses liens avec les autres, comme ceux de la table d'à côté, justement, qui sont là à 5, 6, 7, 8, effectivement, joyeusement attablés, bruyants, qui prennent cet espace sonore, qui prennent, etc. Celui ou celle qui mange seul au restaurant à côté d'une grande tablée, ou même d'ailleurs de table de deux, romantiquement mis en scène, etc., va mettre en scène ou avoir l'impression de mettre en scène sa propre solitude, ou son goût de la solitude. Or, et ça c'est une autre question, mais la solitude ou le désir de solitude, c'est aussi quelque chose qui est pas forcément tout à fait admis dans nos sociétés. Le solitaire, c'est un être en marge. Quels sont les êtres qui traditionnellement, si on remonte un petit peu aux sociétés traditionnelles, vont manger seuls et vont assumer leur repas seul? Ce sont des êtres tels que l'ermite, qui a quasiment renoncé à l'humanité, qui est quasiment basculé dans l'ordre du divin, on va dire, avec une vie ascétique. Ou alors c'est l'homme sauvage, l'homme des bois, qui lui aussi est coupé de la communauté humaine. Ou alors enfin c'est le fou, ou celui qui est enfermé. On est forcément dans quelque chose qui découle, qui tient de la marginalité en réalité. Et c'est un lieu où on nous a montré, dans la littérature, dans les mythes, que l'on se doit d'être avec les autres. Par exemple, c'est un lieu où l'on peut mettre en scène des punitions, justement. En mythologie, on a le roi Finé. Ovide nous raconte ça dans ses Métamorphoses, par exemple. C'est un roi solitaire, aveugle, et quand il est représenté seul à table. Parce qu'en fait, toute convivialité lui a été refusée, parce qu'il a été puni. Et puis l'harpie lui dérobe ou souille tous les aliments qui sont présents sur la table, etc. Donc son calvaire, en fait, c'est d'être seul à table et de ne pouvoir finalement absolument pas mener son repas. On est dans cette dimension-là, je dirais.
On a parlé du fait de manger comme une mise en scène. Est-ce que cette mise en scène, elle peut pas être aussi une mise en scène pour soi? Je pense à certaines fois où je suis particulièrement contente de mon petit repas en solitaire au restaurant avec mon petit verre de vin rouge. Il y a des moments où, peut-être parce qu'il y a un alignement désastre, je suis de bonne humeur, je me sens bien. Je le vois presque comme un moment pour moi, un moment plus revendiqué. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose aussi de l'ordre du statement, de la fierté?
Dire, voilà, moi je revendique le fait de pouvoir boire un verre de vin et d'y prendre du plaisir toute seule. Le dire, c'est déjà se poser en contre une certaine forme de norme. Lorsque vous dites « j'étais heureuse d'avoir mangé un verre de vin », etc., c'est revendiquer une forme de plaisir qui ne soit pas liée à la sociabilité aux autres.
On entend souvent, par rapport au fait de manger seul, mais d'ailleurs que ce soit au resto ou même chez soi, on entend des gens dire que quand ils mangent seuls, ils bâclent le temps du repas, ils ne prennent pas le temps de cuisiner. Moi, ça m'arrive d'ailleurs très régulièrement. J'aime beaucoup cuisiner, mais quand je suis toute seule à la maison, une fois sur trois, en fait, je cuisine quelque chose de beaucoup plus rapide. Je mange pour combler une faim ou parfois même je mange un peu par ennui. Certaines personnes parlent aussi de se nourrir un peu pour combler un manque. Est-ce qu'à l'inverse, on peut aussi peut-être se dire que manger seul, y compris à la maison, ça peut être l'occasion de prendre un vrai moment pour soi, de ralentir, de savourer aussi son plat sans être happé dans une discussion de groupe? Moi, ça m'arrive parfois de me dire j'adore manger avec des amis, avec des proches au restaurant, mais parfois je suis tellement lancée dans une conversation que je mange sans plus trop prendre le temps de voir les ingrédients qu'il y a dans mon assiette, et manger seul me permet au contraire de disposer de davantage de temps.
Voilà, c'est ça. En fait, la notion clé, je dirais que c'est ça, c'est le temps, la temporalité. Ce peut être vu le repas seul comme une pause, une coupure dans la sociabilité imposée, notamment d'une journée de travail par exemple, un moment de respiration, ou effectivement comme une longue plaine monotone qu'il s'agit d'écourter au plus vite, parce que justement là il y a une sorte d'exposition de la solitude. Alors je pense que selon le moment où se tient le repas aussi, le lieu, etc., on va naviguer entre les deux. Ce qui est étonnant dans cette histoire d'interaction, de façon d'assumer l'individualisation d'un repas finalement, c'est que toute l'histoire du repas contemporain, moderne, c'est quand même une histoire de l'individualisation. Le repas est de moins en moins commun. On est passé d'un repas médiéval où tout le monde piochait dans le même plat, à des assiettes individuelles, à des ustensiles individuels, et même aujourd'hui au restaurant, à des plats différents. Au restaurant, aujourd'hui, chacun commande son propre plat individuellement, et en réalité, de fait, il n'y a plus de partage alimentaire. On est toujours assis à une même table, mais on partage beaucoup moins. Et pourtant, la pression sociale qui en fait un acte collectif demeure. Et c'est bien la preuve d'ailleurs que ce qui est en jeu, c'est pas le fait de manger telle ou telle chose, tel ou tel plat concocté longuement ou pas, Mais c'est de s'asseoir à côté d'eux, en réalité. C'est ce qui va conditionner le temps qu'on va y passer, voilà. Et la façon dont on va envisager ce moment-là, je suppose.
Alors, la nourriture sous toutes ses facettes, c'est-à-dire dans la cuisine quand on la prépare, au resto quand on la consomme, ou dans le caddie, dans le chariot, dans le panier quand on l'achète, la nourriture, donc, c'est un marqueur social et culturel. Est-ce que donc le fait de manger seul a pu évoluer au cours des années, voire des siècles ? Est-ce que, par exemple, on a toujours trouvé ça plus ou moins embarrassant de manger seul au resto en France ?
Alors, le restaurant, donc, à Paris, fin 18e, donc à partir du moment où il existe, bah, de toute façon, la femme, c'était effectivement inenvisageable. Hein, la présence de la femme seule dans l'espace social, de toute façon, était inenvisageable. Donc, au restaurant, je dirais encore moins. Après, pour ce qui est du repas solitaire, sans le genrer, qui est en fait un repas masculin, du coup, hein, au départ, il est envisageable dans certains cadres. Et il a toujours existé, mais il était réservé à ceux qui étaient, par exemple, en déplacement, les voyageurs. Il y a toujours eu un repas solitaire du voyageur, qui donc, mais s'inscrit dans une sorte de niche sociale. Puis, plus tard, le repas du représentant de commerce, de celui qui va se retrouver temporairement coupé des siens, qui donc voilà, va devoir se restaurer au restaurant, mais pas comme une sorte de possibilité telle qu'on peut l'envisager aujourd'hui, de solitude, d'activité solitaire choisie. Ça, c'est très, très récent. Je pense qu'on est là dans l'ordre de la revendication. Mais c'est, voilà, ça, c'est très récent.
Avec la généralisation du télétravail, les plats à emporter pendant le confinement, avant ça, le fait peut-être aussi de devoir éviter les grosses réunions, est-ce que la pandémie a changé quelque chose à l'acte de manger seul ?
Alors, il semblerait que la pandémie a influé dans certains secteurs de la société, sur le repas, non pas le repas à l'extérieur, qui de fait a été en réalité interdit pendant longtemps, mais le repas à domicile, au domicile, le repas familial. Et a même parfois reconstitué un repas qui, au fil des ans, s'était parfois un peu fragmenté. Les Français restent très attachés au repas familial, à leur fixe, etc. Mais il n'empêche qu'on commence à trouver de plus en plus une fragmentation, cette prise d'aliments, que le Covid a, en fait, gommé. C'est-à-dire qu'effectivement, on a pas mal de témoignages de familles, d'hommes, de femmes, de jeunes, qui expliquent avoir retrouvé, à l'occasion de ce confinement, un fonctionnement à la maison, collectif du repas, et quand on dit collectif, là, on est ramené à la cellule familiale. Donc ça, c'est intéressant. Alors, est-ce que les choses ont été balayées dès la fin du confinement ? Ça, je ne sais pas, je serais pas capable de le dire. Il faudra qu'on interroge de nouveau, effectivement, ceux et celles qui avaient témoigné, mais il y avait une sorte de mise en commun du repas, du partage au sein de la cellule familiale qui avait été visiblement un petit peu restaurée dans certains lieux, dans certaines familles.
Après cette interview, Nathalie Perbonne m'a confié que si elle n'a pas trop de mal à manger seule le midi, l'idée du resto solitaire le soir lui semble plutôt inconfortable. Je la rejoins sur ce sentiment. Parce que même les fois où il m'arrive de manger seule au resto le soir, parce que je suis en déplacement, j'alterne entre joie de me faire plaisir et impression qu'on me jette quelques regards désolés. Ces regards ne sont peut-être pas réels, peut-être sont-ils le fruit de mon imagination, mais le fait même d'y penser témoigne en tout cas d'une forme de pression sociale à laquelle je ne suis pas étrangère. Choisie ou subie, sur un temps long ou plus ponctuel, la solitude interpelle souvent à l'ère de l'ultra-communication de notre société. Et pourtant, gageons que pour bien être avec les autres, on a toutes et tous besoin de ces précieux moments où l'on n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. Personnellement, il m'arrive même de réaliser que manger seul au resto me laisse plus de concentration pour observer le dressage et savourer les goûts, puisque aucune conversation ne vient se mettre en travers de mon expérience d'ingestion. Alors, vive les restos seuls ! Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et Mathilde Jonin. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux.